France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de la lauréate 2021 du Grand Prix de l'INSERM. Marion Le Boyer est professeure de psychiatrie. Elle est responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil et du laboratoire de psychiatrie translationnelle de l'INSERM. Elle vient d'être récompensée pour ses travaux, notamment ceux qui portent sur l'impact du Covid sur notre santé mentale, et pas uniquement en raison du désordre social qu'il engendre. Le Covid a des conséquences physiologiques sur notre santé, y compris pour une partie de ceux qui font des formes légères de la maladie, et cela se déclare parfois plusieurs mois après. Les psychiatres ne cessent d'alerter à ce sujet. Ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. Alors ce soir, on va en parler avec celle qui co-signe aux éditions Odile Jacob « Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19 ». Une nécessité d'autant plus urgente que l'épidémie repart de plus belle. Depuis cette semaine, les enfants peuvent se faire vacciner, les plus fragiles et ceux dont l'entourage est à risque. C'est le cas de Lynn, 11 ans.
J'ai voulu le faire, tout simplement pour ma maman. Pour moi, c'est essentiel car j'aime ma famille et j'ai envie de les protéger.
Reportage de Solène Lehen à suivre. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on se demandera comment raconter des histoires aux enfants. On sera notamment avec Laure Grand Besançon, dont le podcast Les Odyssées fait un tabac auprès des 7-12 ans. On sera également avec Léonard Billot, qui produit Une histoire et au lit, ainsi qu'avec le conteur Marien Tillet, une émission pour les petits et les grands. Alors n'hésitez pas à nous appeler, quel que soit votre âge. Merci à Irène Menem qui m'a aidé à préparer cette émission, à Juliette Gou qui la réalise, merci à Clémentine Ducasse pour la page web, merci à nos standardistes ainsi qu'à Clément Berman, Florian Dorimini et Michel Bézikian qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir, professeur Marion Le Boyer.
Bonsoir.
Bienvenue à France Inter et peut-être on va commencer par là. Félicitations, bravo pour ce Grand Prix 2021 de l'INSERM. C'est un prix prestigieux. Si j'ai bien compris, vous êtes récompensé à la fois pour vos travaux sur la psychiatrie en général et pour les conséquences et vos travaux sur les conséquences du Covid sur la santé mentale en particulier, c'est ça?
Alors effectivement, je suis récompensée. C'est une grande fierté pour moi et pour mon équipe, pour l'ensemble des travaux qu'on a menés depuis des années sur une meilleure compréhension, un meilleur diagnostic et un meilleur traitement de ces maladies mentales. Et ça veut dire qu'on travaille sur des domaines et dans des domaines extrêmement différents qui concernent l'épidémiologie, par exemple, dans le cas du Covid, mais aussi la génétique, l'immunologie, l'imagerie cérébrale, bref, toute une série de domaines et d'outils qui nous permettent, et c'est probablement ça la reconnaissance de ce prix, d'avoir considérablement progressé dans la compréhension de ces maladies.
Des maladies comme la schizophrénie, la dépression, les troubles bipolaires, le spectre de l'autisme, c'est tout ça sur quoi vous travaillez?
Absolument.
Ça fait des années, Marion Le Boyer, que vous plaidez la cause de la psychiatrie. Vous n'êtes pas toute seule, mais avec vos collègues, c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous nous dites, c'est qu'avec la pandémie de Covid, ça va devenir encore plus nécessaire de s'occuper de notre santé mentale?
Absolument, je crois que c'est vraiment un message qu'il est important de passer ce soir sur votre émission. On a beaucoup parlé de ça, on l'a beaucoup dit, mais je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas rentré et qui n'est pas compris et qui n'est pas entendu. Et cette pandémie qui redémarre encore une fois, elle attire encore plus notre vigilance puisque on pense que, et on voit et on mesure dans tous les pays qu'il y a une augmentation dans la population générale de troubles anxieux, de troubles dépressifs, et c'est vrai dans tous les pays. Et ce qui est démontré aussi de façon très claire, c'est que ça touche plus spécifiquement les femmes, les personnes jeunes, les jeunes adultes et les personnes en situation de précarité économique. Donc il faut vraiment qu'on soit particulièrement vigilant.
Alors si j'ai bien compris ce livre que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob, qui s'appelle « Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19 », c'est que le Covid, ça on en a parlé, a des répercussions générales sur notre société, effectivement, provoque un certain nombre de troubles du fait de la désorganisation de notre vie sociale, mais que c'est surtout aussi qu'il a clairement des effets physiologique sur nos organismes, tout simplement. Le virus nous atteint à ce niveau-là aussi.
Alors le virus, il entraîne des atteintes dans plein d'organes différents, mais en particulier et aussi dans le cerveau. Et on sait maintenant, là aussi c'est quelque chose qui a été répliqué dans tous les pays, c'est pas une spécificité française, c'est partout. Il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences à la suite d'une infection par le Covid, quelle que soit sa gravité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur à la fois la survenue de nouveaux épisodes dépressifs chez des gens qui n'en ont jamais eu auparavant, Et on estime en gros qu'il y a une augmentation du risque à peu près de 30%, quelquefois 6 mois après l'infection. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que le grand public, nos concitoyens n'ont pas l'habitude de faire le lien entre la survenue d'une infection et le début d'une maladie mentale comme un trouble de l'humeur. Et quelquefois, les patients que nous voyons en consultation, avant de venir en consultation, ils se sentent coupables, ils ont honte d'avoir des idées ou des symptômes dépressifs, et ils ne le reconnaissent pas, ils n'appellent pas à l'aide. Donc c'est vraiment important de se dire qu'à la suite d'un épisode aigu infectieux de Covid, on peut développer un trouble anxieux, on peut développer une dépression, on peut avoir des difficultés de mémoire ou des difficultés d'attention. Il ne faut pas en avoir honte, il faut en parler autour de soi, il faut demander de l'aide à son médecin, parce que ce sont des pathologies comme les autres qui peuvent se diagnostiquer et se soigner.
Ça veut dire, si je vous entends bien, que quelqu'un qui sort guéri de l'hôpital pour son Covid peut très bien être rattrapé par des atteintes neuropsychiatriques plus tard.
Absolument.
Il faut donc être vigilant.
Il faut être vigilant, il faut s'informer, comme on le fait, il faut en parler comme on le fait ce soir. Il faut, si on a le moindre doute, en parler à son médecin pour qu'il y ait une surveillance et un dépistage. Et il faudrait qu'on puisse, nous en France, déployer des consultations Covid long, dans lequel il y ait des psychiatres et des neurologues qui puissent faire ces bilans diagnostiques et cette prise en charge. Également des plateformes, parce que quelquefois c'est compliqué d'aller demander un avis à un psychiatre. Et on a vu aussi pendant la crise que le développement de ces plateformes numériques permettent d'avoir accès beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement à un premier soin, un premier contact avec la psychiatrie.
Quelle est la proportion de malades touchés par ce genre de troubles? J'ai cru comprendre que Santé publique France parle de 20%.
Absolument, c'est 20% de troubles anxieux, souvent qui vont débuter assez tôt après l'infection, après l'épisode aigu d'infection. Et la dépression, ça peut toucher jusqu'à 30% des personnes qui ont eu le Covid. Et parfois jusqu'à 6 mois après l'infection. Et c'est pas quelque chose qui est spécifique du Covid, c'est quelque chose qui est plus fort dans le cas du Covid, mais qui touche finalement la suite de toute une série de maladies infectieuses.
Ça s'est déjà vu pour d'autres infections. C'est quoi? C'est l'inflammation qui produit des effets sur la santé mentale?
Alors les mécanismes déclenchants de ces maladies mentales, elles sont à l'étude, donc c'est un peu trop tôt pour en parler de façon précise, mais il y a trois mécanismes hypothétiques aujourd'hui. Un, l'entrée du coronavirus directement dans le cerveau, en particulier par la voie olfactive, peut-être en lien avec cette anosmie, cette perte du goût et de l'odorat dont on a beaucoup parlé. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on a appelé la tempête cytokinique, c'est-à-dire la production de marqueurs de l'inflammation, qui font le lit de toute une série de pathologies psychiatriques. Et puis il y a peut-être aussi la survenue d'anomalies de la coagulation. Bref, il y a toute une série de mécanismes, peut-être encore d'autres voies qui sont en ce moment à l'étude. Et c'est pour ça que c'est très important de continuer à faire de la recherche sur les données épidémiologiques, mais aussi sur les mécanismes qui sont à l'origine de ces facteurs et de ces événements neuropsychiatriques.
Et c'est ce sur quoi vous travaillez?
Entre autres, oui.
Ces conséquences sur la santé mentale, professeur Marion Le Boyer, peuvent exister qu'on ait eu une forme grave ou une forme légère du Covid?
Absolument, c'est amplement là aussi démontré dans la littérature, quelle que soit la gravité de la forme de Covid qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on ait été en réanimation, qu'on ait été hospitalisé en médecine ou qu'on ait eu une forme très légère et qu'on soit resté chez soi, on peut voir ces pathologies survenir. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les raisons précises qui font qu'on ait de la risque, mais il faut savoir, il faut informer la population de ce risque.
Ça veut dire que même quelqu'un qui a une forme alors archi-bénigne ou juste un test positif avec l'impression d'avoir aucun symptôme peut être rattrapé à plus long terme par ce genre de pathologie.
Absolument, parce qu'on ne se défend pas tous face à ces pathologies infectieuses. On n'arrête pas tous de la même manière l'inflammation qui peut découler d'un épisode infectieux. Et ce sont ces facteurs qui dépendent de son terrain génétique, qui dépendent peut-être de l'existence d'autres infections qui sont survenues avant, qui dépendent de la survenue de situations de stress, qui peut aussi déclencher de l'inflammation et avoir ses conséquences, qui vont éventuellement déclencher ces troubles anxieux ou ces troubles dépressifs.
Voilà, donc il faut en parler pour qu'on en prenne conscience. Et globalement, depuis le début, et ça ressort bien de votre livre, Marion Le Boyer, on comprend que les professionnels de la santé mentale estiment qu'on les entend pas suffisamment, que ça a été un petit peu négligé. Je voudrais juste qu'on écoute le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui n'a évoqué cet aspect des choses dans la pandémie de Covid qu'à la fin de l'année 2020 pour la première fois, quand il a dit vouloir éviter une troisième vague psychiatrique. On l'écoute, c'était le 18 novembre 2020, c'était sur BFM TV.
Nous voulons éviter très clairement une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale. Cette génération, vous savez, elle connaît aujourd'hui la pandémie, mais elle connaît aussi le risque terroriste, elle connaît aussi le réchauffement climatique, elle a connu la crise économique et bancaire de 2008. La vie, quand on la regarde comme ça, elle n'est pas réjouissante, mais le message que je veux porter, que nous voulons porter, c'est aussi un message d'espoir.
Ça vous avait un petit peu agacé cette déclaration, professeur Le Boyer. Pas vous toute seule, hein, mais...
Alors, agacé, je me permettrai pas, mais c'est vrai que les professionnels de santé que nous sommes, forts des connaissances issues des précédentes pandémies, on a alerté dès le début de la pandémie, attention, dans ce contexte, qui est un contexte psychologique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est un contexte sociétal, qui est un contexte économique, mais aussi médical, il y a un risque, et le risque, on y est, de voir surgir toute une série de maladies mentales. Et on y est, donc c'était une réalité, et c'est vrai que novembre, ça nous a paru un petit peu tard.
Voilà, et c'est vrai que vous aviez signé, vous, une tribune avec d'autres professionnels, on se souvient, avec Serge Effèze, il y avait Cynthia Fleury, il y avait un certain nombre de gens, Rachel Bauchet aussi à Nantes, qui avait signé cette tribune avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marion Le Boyer, tout ça? C'est qu'on est toujours dans le déni par rapport à la santé mentale en France? On a toujours du mal à en parler, à en prendre conscience?
La psychiatrie reste une discipline un peu oubliée, on l'a dit, on l'a redit, c'est-à-dire qu'on a du mal à parler des maladies mentales, on a du mal à changer nos représentations de ces pathologies, et ça entraîne un déni, un retard au diagnostic, un retard à l'accès aux soins. Or, on sait que, un, ce sont des maladies comme les autres, deux, plus tôt, et fait le diagnostic et la prise en charge, meilleur est le pronostic. Donc c'est vraiment important de changer, dans le cadre de cette pandémie, nos représentations des maladies, la façon dont on se les représente. C'est des maladies comme les autres, qui, comme les autres, peuvent se diagnostiquer, comme les autres peuvent se soigner. Mais il faut que tout cette subjectivité, cette stigmatisation, ce sentiment souvent de honte et de culpabilité qui les accompagne, puisse disparaître, être réduit, et que les patients osent en parler autour d'eux, ce qu'ils ne font pas, et osent consulter et être soignés.
Surtout que ça concerne quand même beaucoup de monde, une personne sur quatre, si j'ai bien lu ce que vous avez écrit, et ce sera une sur trois au cours de sa vie.
Alors ça concerne effectivement beaucoup de monde, ça concerne beaucoup de patients, ça concerne aussi beaucoup de proches. Donc finalement, quand on y réfléchit, quand on écoute les chiffres que vous venez de rappeler, on est tous concernés. Donc c'est vraiment extrêmement important d'arriver à se représenter ces maladies comme des maladies comme les autres, dont on a le droit de parler à ses proches, à ses amis, à son médecin, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est encore tu à tous les niveaux de la société.
Même dans le corps médical?
Alors dans le corps médical, c'est vrai aussi qu'il y a une certaine stigmatisation. Il n'y a qu'à regarder l'organisation des soins où moi je déplore tous les jours qu'il y ait encore un clivage très important entre la prise en charge somatique, physique des patients et puis leur prise en charge psychiatrique, mentale. On est encore dans une société très cartésienne où on fait une espèce de séparation très artificielle, mais qui est la réalité, entre ce qui est le fait de l'esprit et de l'âme d'un côté, et de l'autre celui du physique et du corps et du somatique, alors qu'il faut aujourd'hui penser la santé comme une santé globale, et l'un retentit sur l'autre. Il faut vraiment prendre en charge les patients de façon globale, ce d'autant qu'on sait aujourd'hui que quand on a une maladie mentale, on est aussi plus à risque de faire toute une série de pathologies somatiques, médicales, qui sont aujourd'hui très mal diagnostiquées, très mal prises en charge, à cause de cette séparation et de ce clivage.
Alors on va évidemment y revenir, Marion Le Boyer, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été réalisé par Stéphane Côme et Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, le Covid, bien sûr, encore et toujours, la justice qui crie au secours comme l'hôpital, la présidentielle et le dernier référendum en date en Nouvelle-Calédonie.
Allons enfants de la patrie,
les Calédoniennes,
le jour de gloire,
les Calédoniens ont choisi de rester français.
Emmanuel Macron salue le résultat du troisième référendum en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République.
La France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester.
96% des votants se sont prononcés pour le maintien dans la République, mais moins de la moitié du corps électoral s'est déplacé. Les indépendantistes réclamaient le report du scrutin en raison de la pandémie de Covid.
Pour nous, ce référendum n'a pas de sens politique. Le peuple autochtone, le peuple kanak, qui est là quand même depuis 3000 ou 4000 ans, il n'a pas participé à ce référendum. Ce sont les autres qui se sont exprimés.
Pour garder une Calédonie comme je l'aime, quoi. Avec ce qu'on a déjà, quoi. La sécurité, le travail, la santé.
Je vais vous demander quel bras vous voulez.
Ouais.
Et voilà.
Je crois bien qu'il est temps.
À propos de santé, il ne faut plus traîner. Depuis cette semaine, le pass sanitaire est désactivé pour les plus de 65 ans qui n'ont pas fait à temps leur dose de rappel contre le Covid, alors que la cinquième vague déferle.
Et là, j'ai dit, c'est le moment, hein, parce que je vais descendre chez les enfants pour les fêtes. Il faut que je sois vaccinée.
C'est fini l'opération, ouvrez les yeux. Allez, respirez. Voilà, ça y est, c'est terminé. On va retirer le tuyau.
Nous manque du personnel soignant. On a 20% de lits fermés. Il y a 25 patients couloirs tous les jours aux urgences de Béclair.
Comme un air de déjà-vu, notamment à l'hôpital.
Greffier, veuillez présenter cette pièce au jury.
Même souffrance dans le monde judiciaire qui a manifesté cette semaine.
On ordonne des incarcérations en n'ayant pas le temps de rentrer dans le dossier. On n'a pas le temps de le lire. On se contente d'une synthèse policière. Puis sur cette base-là, on envoie des gens en détention et c'est pas satisfaisant.
Il fait ses états généraux de la justice pour parler justice comme un candidat sans être candidat. Et là, il va sur TF1. Enfin, ça suffit.
Le député insoumis Hugo Bernalicis.
Il faut que son temps de parole soit décompté. Et puis au-delà du temps de parole, il y a un sujet quand même. Ça s'appelle les comptes de campagne.
Emmanuel Macron profite des pouvoirs qui sont ceux du président de la République.
Le président sur TF1 cette semaine. 2 heures d'émission enregistrées à l'Élysée, mais pas forcément de réponse à la question du moment sur une deuxième candidature.
Certains sont en campagne, mais votre serviteur non.
Pas en campagne, mais avec quand même l'envie de continuer.
Oui, j'ai de l'ambition pour notre pays, l'envie de faire.
Ah, mais refaire pareil ?
Je fais des erreurs, oui, beaucoup.
Ah bon ? Lesquelles ?
Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. On ne transforme pas un pays en 5 ans.
Donc, il y aura bien une session de rattrapage. À gauche, Anne Hidalgo aurait légèrement tendance à se répéter.
L'union, l'histoire le montre, c'est ce qui fait la gauche.
S'unir, pourquoi pas, dit Yannick Jadot, mais après le scrutin.
Évidemment, Anne Hidalgo pourrait être Première ministre.
Ces gens-là, c'est là que vous voyez que le Parti Socialiste n'est plus un parti de gouvernement.
Jean-Luc Mélenchon.
Sont capables d'imaginer qu'à 4 mois d'une élection, sans programme, on va organiser une primaire, et puis ensuite on discutera du programme. Nous, ça fait 10 ans qu'on le met au point.
À propos de programme, on laissera le mot de la fin à Valérie Pécresse, qui a livré une certaine idée de la France cette semaine.
Moi, je vais vous dire, si être français, c'est ne plus avoir le sapin de Noël, c'est ne plus manger de foie gras, c'est ne plus avoir la chance d'élire Miss France. Mais à un moment donné, bah, la France, c'est la France et le foie gras, c'est la France.
Voilà pour l'actualité de la semaine, mise en onde par Anne-Cécile Perrin et Stéphane Combe. En politique, eh bien, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, les choses se sont légèrement accélérées cet après-midi. On y reviendra dans le journal de 19h. Une semaine en France avec la professeure de psychiatrie Marion Le Boyer qui vient de se voir décerner le Grand Prix 2021 de l'INSERM. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à l'une ou l'autre de ces informations, Marion Le Boyer.
Mais c'est vrai qu'on entend dans la bouche d'un certain nombre des serviteurs de l'État le fait qu'ils ne sont pas satisfaits de la qualité de leur travail. Et c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans le monde de la justice. Et je crois que c'est un point sur lequel il faudrait vraiment qu'on puisse s'arrêter dans ce temps de campagne qui présidentielle qui s'annonce, pour vraiment réfléchir sur la manière dont on pourrait redonner envie de servir l'État, de servir le service public. Et aujourd'hui, où on voit que nos hôpitaux sont délaissés, qu'il y a un manque d'attractivité, aussi bien des infirmiers que des médecins, je crois que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose.
C'est vrai à l'hôpital Henri Mondor de Créteil aussi ?
C'est vrai partout, pas spécifiquement à l'hôpital Henri Mondor, mais c'est vrai partout. Il y a aujourd'hui une désaffection de nos jeunes collègues pour la psychiatrie en particulier, la médecine d'une façon générale, le monde de l'hôpital. Et j'avoue que pour la psychiatrie, moi ça me fait vraiment de la peine parce qu'on est à l'aube de découvertes absolument extraordinaires. On a fait des progrès tout à fait considérables. Vous avez rappelé que j'ai eu le Grand Prix de l'INSERM parce que nous avons fait des découvertes et des progrès tout à fait importants dans le domaine de la recherche en psychiatrie. Et je suis absolument convaincue que dans les années à venir, on va continuer à faire des progrès. Donc
il faut du monde, il faut des bras.
Voilà,
il faut
surtout de la passion et de l'intérêt pour une discipline extraordinaire qui est la psychiatrie, qui est en train de se transformer absolument de façon radicale. Et je pense que c'est pas le moment de quitter le navire.
30% des postes de praticiens hospitaliers vacants en psychiatrie, si j'ai bien lu. C'est énorme.
C'est énorme.
Sur l'état de l'hôpital, vous dites aussi une chose dans votre livre, Marion Le Boyer, c'est que lors de la première vague, à l'hôpital psychiatrique, on a su rénover le fonctionnement, on a su faire une sorte de révolution. Ce qui est vrai, d'une manière générale, ce qu'ont dit les praticiens, ça a été vrai dans votre domaine aussi. Les cloisons sont tombées, c'est ce que vous écrivez.
Alors on a fait des choses effectivement très vite, très bien, très innovantes dans des domaines où on n'arrivait pas à faire bouger les lignes depuis très longtemps. Par exemple, on a été très nombreux en France à développer des téléconsultations qu'on ne faisait pas auparavant et du coup à garder en prise en charge et en soins des patients qui étaient chez eux et qui ne pouvaient pas sortir de chez eux à cause du lockdown. Donc tout ça, ça a été une première évolution. Il y a eu d'autres évolutions technologiques comme le développement de toute une série de plateformes numériques qui ont permis, par exemple, aux étudiants d'avoir accès facilement depuis leur chambre d'étudiants à des outils d'autodiagnostic, à des outils d'auto-aide et à des consultations à distance avec des psychologues. Donc ça, c'était des révolutions technologiques. L'autre chose qu'on a fait aussi, tous très vite, c'est d'arriver à renforcer les équipes médicales avec différents professions qui souvent malheureusement travaillent pas suffisamment ensemble. On a fait par exemple dans nos unités, on a ouvert des unités Covid pour les patients atteints de maladies mentales et de Covid simultanément, et donc on a fait des équipes pluridisciplinaires avec des psychiatres, des médecins généralistes, des pharmaciens, parce qu'il fallait aussi réfléchir au traitement et à la manière dont ils étaient administrés. Ça, c'est pas des choses qui sont faites couramment, où on parlait
mais
tout à l'heure des cloisons.
Mais il en reste rien, tout ça.
Il reste
les mauvaises habitudes sont revenues.
Il reste des innovations technologiques. Encore faudrait-il que leur évaluation soit faite, que elles soient poursuivies ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans la culture française suffisamment. C'est-à-dire on développe quelque chose et puis on n'a pas ce temps d'évaluation, d'expérimentation pour savoir si on le déploie ou pas. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important. Et tous ces outils numériques qu'on voit fleurir aujourd'hui, on a absolument besoin de moyens pour pouvoir en tester l'acceptabilité au niveau des patients, au niveau des professionnels et leur efficacité. Donc ça, c'est comme ça que ça pourrait être un impact positif, je dirais, de la crise. Et puis ensuite, ce cloisonnement que moi je déplore, je pense effectivement qu'il faut absolument qu'on fasse tomber les murs, qu'on fasse tomber les cloisons et qu'on apprenne à beaucoup plus travailler ensemble dans des parcours de soins coordonnés dont ont besoin nos patients. Ils ont besoin d'un psychiatre, d'une psychologue, d'un médecin généraliste, de spécialistes de différents domaines en fonction des comorbidités. Et ça, c'est ce qu'on a vu pendant les premiers mois du Covid, très rapidement mis en place.
Comme quoi, quelque chose, malheur est bon. Hein. Dans ce premier confinement, il y a quand même eu de bonnes choses. Cette semaine, Marion Le Boyer, c'était le début de la vaccination des 5-11 ans les plus fragiles, qui vivent avec des adultes immunodéprimés. Ils sont un peu plus de 350 000 en tout. Et vous allez l'entendre, pour eux, la vaccination n'est pas une interrogation, elle est un soulagement. C'est le cas pour Lynn, 11 ans, dont la maman est particulièrement à risque. C'est un reportage de Solène Lehen.
Le vaccin contre le Covid pour les enfants, Lynn n'attendait que ça.
Dès que j'ai su que j'allais aller avoir un vaccin, j'ai voulu le faire. Tout simplement pour ma maman.
Sa mère, Véronique, est très à risque, immunodéprimée, car elle a reçu une greffe de rein.
Elle a toujours très peur pour moi.
Alors Lynn, 11 ans, a pu être vaccinée il y a déjà une dizaine de jours.
S'il n'y avait pas eu le Covid, elle aurait embrassé le médecin. Parce que je pense qu'il y avait un certain poids sur ses épaules qui s'est un petit peu évaporé, si je peux dire ainsi.
Déjà, c'était une grande libération. C'était déjà un point en moins. J'ai quand même continué à faire attention. Je me disais, au moins, je pourrais moins le transmettre si je l'ai. Pour ça, j'étais très très contente.
Un poids en moins, elle qui, depuis près de 2 ans, s'interdit presque toutes les activités des enfants de son âge pour éviter de ramener le Covid à la maison.
Ce que j'ai arrêté de faire, c'est aussi faire moins de câlins, faire moins de bisous. Moins partager des choses avec ses amis, c'est-à-dire le goûter, les choses comme ça. Ça, j'en fais d'ailleurs plus, de ne plus voir la famille, les amis, enfin c'était compliqué.
Lynn était en Alsace au début de la pandémie. Elle a vu l'épidémie toucher de plein fouet des proches. Son grand-père a dû être plongé dans le coma. Lynn était alors en CM1. Après le premier confinement, elle n'est pas retournée à l'école pendant 2 mois. Elle ferait tout pour ne pas contaminer sa mère.
Au début du Covid, je me mettais beaucoup de pression pour bien porter le masque, pour respecter les gestes barrières, pour mettre du gel tout le temps. Et puis c'est devenu peu à peu une habitude.
Le vaccin, c'est un soulagement pour Lynn, très émue. À 11 ans, elle portait jusque-là une énorme responsabilité pour une enfant de son âge.
Pour moi, c'est essentiel car j'aime ma famille et j'ai envie de les protéger. Et je serais prête à rester dans ma chambre pendant des mois et des mois si je devais le faire juste pour eux.
Même émotion dans la voix de sa mère, Véronique.
Je suis très fière de ma fille, vraiment. Je pense qu'elle a une grande maturité pour son âge.
Comme Lynn, 25 000 enfants ont déjà reçu une injection de vaccin contre le Covid parce qu'ils vivent avec un parent, un frère, une sœur immunodéprimée ou sont eux-mêmes à risque de développer une forme grave du Covid.
La vaccination des enfants qui interroge bien des parents, que leur dire Marion Le Bourrier, ou si vous avez peut-être une réaction par rapport à,
bah on peut
à
pas,
ce reportage.
On ne peut pas effectivement ne pas réagir. Je trouve que c'est un témoignage extrêmement touchant et de Lynn et de sa maman. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser que la vérité sort de la bouche des enfants quand on entend ce qu'elle vient de dire. Et puis on voit aussi à quel point cette pandémie, elle a un poids extrêmement important sur la santé mentale de cette jeune génération. Elle a dit toute une série de mots qui laissent à penser qu'elle a eu à faire face à toute une série de situations très traumatisantes pour une petite fille de 10 ans ou de 9 ans au début de la pandémie. Et donc on voit bien le risque qui court sur cette jeune génération et à quel point il faut qu'on leur laisse exprimer leurs difficultés, qu'on les prenne en charge. Et on sait toutes les difficultés qu'il y a à trouver aujourd'hui un pédopsychiatre en France ou un psychologue pour ses enfants. Il faut vraiment qu'on fasse attention à cette génération.
Les pédopsychiatres, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il n'y en a plus qu'un peu plus de 600 pour toute la France.
On en manque énormément. Il y a eu des actions qui ont été lancées par le gouvernement pour essayer d'augmenter leur nombre et de les attirer. Mais il y a vraiment une question d'attractivité de ces métiers en France. Et il faut qu'on soit très vigilant et qu'on entende ce genre de témoignages pour que ça donne envie, encore une fois, aux plus jeunes d'embrasser ces métiers.
Pour en revenir à la vaccination et aux personnes qui souffrent de problèmes mentaux, vous dites que pour ces personnes-là, la vaccination est quelque chose d'essentiel. Elles auraient même dû être prioritaires. Pour quelles raisons, professeur Le Bourrier ?
Je suis très contente que vous me posiez cette question parce que c'est vraiment un point très important dont on ne parle pas assez. On a publié un très grand nombre d'études dans des très grands journaux internationaux montrant que les personnes qui présentent une maladie mentale, ont trois risques. Premièrement, ils sont plus à risque d'attraper le Covid. Deuxièmement, quand ils attrapent le Covid, ils sont deux fois plus à risque que la population générale de faire des formes graves de Covid. Et ils ont bien sûr un risque augmenté de mortalité. Donc on a beaucoup demandé aux différents gouvernements européens de prioriser les personnes atteintes de maladies mentales pour la vaccination. C'est chose faite pour la troisième vaccination, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut aussi que le grand public soit informé de ce risque et que les personnes ayant une maladie mentale se fassent vraiment vacciner et n'hésitent pas à le faire.
Donc pour dire les choses simplement, une maladie mentale, c'est une comorbidité qui
Absolument.
Doit être signalé et qui doit être prise en compte au même titre que le diabète ou l'obésité.
C'est les mêmes risques, voire un peu plus fort. Alors en sachant que en plus ces personnes sont aussi plus à risque que la population générale de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, bref toute une série de comorbidités qui les mettent à risque. Mais indépendamment de ces facteurs de risque, il y a un risque inhérent au fait d'avoir une maladie mentale qu'il faut vraiment prendre en compte et il faut se vacciner.
On comprend à quel point le Covid a des conséquences à tous les niveaux. Les conséquences psychosociales de la pandémie, maintenant d'une manière générale, y compris pour les personnes qui souffraient déjà de problèmes psychiatriques, ces conséquences, vous les avez vues très clairement dans votre secteur. Vous êtes responsable d'un pôle d'addictologie à l'hôpital Henri Mondor.
Moi, je suis responsable du pôle de psychiatrie et d'addictologie.
Et les deux, oui.
Voilà, absolument. Ben, on les a vus, on a vraiment réussi, je pense, à poursuivre les soins des personnes malades pendant la totalité de la pandémie, pour la majorité d'entre eux, parce que c'est vrai que la façon dont qu'on a permis de suivre, ça fait appel à ces téléconsultations et que ça suppose que des patients qui sont quelquefois dans des situations de précarité économique aient accès à Internet, à un téléphone portable, à un ordinateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais dans la majorité des cas, c'est vrai qu'on a réussi à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de prise en charge et de traitement dans des services qui, bien sûr, sont restés. On a tous continué à travailler pendant la totalité de la pandémie, bien sûr.
Pour en revenir à cette question du fossé qui existe, de cette cloison qui existe entre santé mentale et puis les autres soins, Marion Le Bourrier, vous dites dans votre livre « La France n'a jamais fait sa révolution culturelle ». Je vous cite « La psychiatrie française, encombrée de clichés d'un autre âge, continue de diagnostiquer trop tardivement, d'avoir trop recours aux hospitalisations, de ne pas organiser les soins de manière graduée, d'isoler la psychiatrie des autres disciplines médicales. La folie fait honte et les fous font peur ».
Mais il y a vraiment un travail d'information, de déstigmatisation, de changement de nos représentations sur ces maladies mentales qu'il faut opérer. Et c'est un petit peu l'objet de ce livre, que de se dire que une crise, c'est aussi une opportunité pour réfléchir, pour repenser, pour éventuellement réformer notre système de santé mentale. Parce qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels il faut qu'on change l'organisation des soins. On a parlé tout à l'heure de l'attractivité, il faut l'augmenter. Il faut décloisonner donc ces clivages entre somatique, soins somatiques et psychiatrie, entre pédopsychiatrie pour les enfants et psychiatrie d'adultes. Il faut construire des parcours spécialisés qui soient plus lisibles, plus coordonnés, moins stigmatisés. Il faut développer les plateformes dont on a parlé tout à l'heure parce que ils permettent d'avoir un accès aux soins plus rapide. On sait aujourd'hui que c'est pas si simple que ça de se repérer dans l'organisation des soins, de comprendre la différence entre un psychiatre et un psychologue, de repérer ou d'identifier quelqu'un qui peut être spécialisé dans la pathologie qu'on a. Et puis, il y a un dernier point extrêmement important, surtout maintenant que j'ai reçu ce prix et sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a vraiment besoin qu'il y ait un soutien plus important pour la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, la recherche en psychiatrie ne reçoit que 4% du budget de la recherche biomédicale. C'est très faible.
C'est pas grand chose,
c'est
hein.
Très faible par rapport au fait que c'est un ensemble de pathologies dont le coût direct et le coût direct sont considérables, et on sait que c'est la recherche et l'innovation qui vont non seulement améliorer le pronostic, la qualité des soins et avoir cette innovation dont nos patients ont tellement besoin, et on sait très bien que c'est l'innovation qui permet de réduire les coûts tout en améliorant la qualité.
Voilà, vous allez pouvoir prêcher vraiment la bonne parole maintenant avec ce prix. On en reparle dans quelques minutes, le temps d'écouter Émilie Loiseau.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel? Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. La 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 la. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée d'or. Nous emporte si haut qu'elle nous met à mort.
Émilie Loiseau, Le poids de l'existence, choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Une semaine en France en compagnie de Marion Le Boyer, professeure de psychiatrie qui vient de se voir attribuer le Grand Prix 2021 de l'INSERM. Marion Le Boyer, à ce stade de l'émission, on dit un petit mot du parcours de l'invité, c'est la tradition. Vous êtes née en 1957, vous venez d'une famille de professeurs-chercheurs, on peut dire ça?
Tout à fait, ça me touche beaucoup que vous parliez de ma famille et de mes parents. Ils étaient Claude et Maurice Lévy-Le Boyer, ils étaient tous les deux professeurs d'université, enseignants-chercheurs. Ma mère était professeure en psychologie du travail et mon père était le chef de file de l'histoire économique. Ils ont effectivement, pour moi, été un modèle en m'apprenant la valeur travail. À la maison, on travaillait tout le temps, le week-end, le soir, les vacances. Et ça continue, effectivement. Et puis, je pense qu'ils m'ont aussi donné le sens du service public. Ils étaient des grands serviteurs de l'État. Et ils m'ont appris, je pense aussi, que c'est très important de penser par soi-même et que c'est ça la force d'un engagement d'intellectuel et de scientifique et de pouvoir associer ou convoquer au service de sa discipline d'autres outils et d'autres disciplines. Et c'est comme ça qu'on a construit ce laboratoire INSERM que je dirige maintenant depuis des années. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de faire de la psychiatrie en tant que telle, mais on a fait de la psychiatrie et de la génétique, de la psychiatrie et de l'immunologie. On a utilisé les outils d'imagerie cérébrale, l'épidémiologie, et c'est un petit peu parce qu'ils étaient eux aussi aux confins de différentes disciplines.
Et pourquoi la psychiatrie, Marion Le Boyer?
Alors pourquoi la psychiatrie? Parce que c'est venu comme une évidence au tout début de mon internat, où je me suis dit que c'était probablement le domaine dans lequel il y avait le plus de besoin et d'espoir de changer, de transformer et d'innover. Et je pense que c'est une obligation de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et je suis absolument persuadée que c'est grâce à la recherche qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
La recherche qui, évidemment, a besoin de moyens, on l'a dit tout à l'heure. Le Grand Prix de l'INSERM 2021 vous a été remis par Frédéric Vidal il y a quelques jours au Collège de France. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand elle vous a remis ce prix?
Ouais, je l'ai bien sûr remercié. J'ai bien sûr expliqué que c'était une grande fierté, un grand honneur pour moi et pour mon équipe. Ce prix leur revient largement autant, voire plus qu'à moi. Et puis c'est aussi pour moi l'obligation de continuer à servir la psychiatrie. Je ne vais pas m'arrêter là, même si vous avez rappelé mon âge tout à l'heure. Je pense que c'est curieux.
Vous êtes jeune.
C'est curieux de le dire là, mais je pense que vraiment il y a de tels progrès devant nous que il faut continuer à avancer. Et à faire vivre, et la recherche en psychiatrie, c'est vraiment important.
Il y a eu des assises de la santé mentale et de la psychiatrie il y a deux mois. Est-ce que ça a été un tournant ou au moins un moment important, ou on ne peut pas dire ça?
Ah si, tout à fait. C'est la première fois qu'un président de la République prenne la parole en personne sur le sujet de la santé mentale et de la psychiatrie. Je pense que c'était jamais arrivé. Donc ça montrait clairement à la population générale et à notre communauté que c'est un sujet qui préoccupe l'État, qui préoccupe le gouvernement. Et pour nous, c'était bien sûr un signal fort.
Donc, et les annonces qui ont été faites sont à la hauteur ou pas?
Alors il y a eu effectivement des annonces fortes en faveur des soins, en faveur du secteur, en faveur des psychologues et du remboursement de leur acte, en faveur de la recherche, puisqu'il a aussi parlé du soutien à la recherche en psychiatrie. Maintenant, c'est vrai qu'on attend de voir la réalisation concrète de ces annonces.
Des moyens pour la recherche, c'est ce que vous nous dites, Marion Le Boyer. Votre laboratoire, sa dénomination exacte, c'est neuropsychiatrie translationnelle. Ça veut dire quoi?
Alors c'est neuropsychiatrie parce qu'on travaille sur des maladies psychiatriques et sur des maladies neurologiques, et ça veut aussi montrer qu'il y a un chemin, un échange entre différentes disciplines, entre l'étude de recherche très fondamentale sur les mécanismes vers le patient. On a vraiment à cœur, et il y a beaucoup de médecins d'ailleurs qui travaillent dans cette unité de recherche, qui travaillent aussi dans notre service à l'hôpital Henri Mondor, et il y a ce travail permanent de traduction des découvertes qu'on peut faire en recherche et d'essayer de les appliquer le plus vite possible et le mieux possible bien sûr aux soins quotidiens.
On dit un mot quand même de ces découvertes. N'étant pas une spécialiste pour ma part, j'ai peut-être un peu de mal à comprendre certaines choses, mais j'ai cru comprendre que vous avez mis en évidence par exemple le lien entre schizophrénie et urbanicité. C'est-à-dire...
Tout à fait. Alors c'est l'équipe de Franck Schuroff et d'André Isoquet au laboratoire qui ont beaucoup travaillé sur la réalisation de toute une série d'études épidémiologiques en France et dans les pays européens pour montrer que à cause de probablement toute une série de facteurs qui sont liés à l'urbanicité. L'urbanicité, ça veut dire le fait de vivre en ville.
En ville.
Il y a une augmentation beaucoup plus importante des maladies mentales en ville qu'à la campagne. Il y a deux fois plus de schizophrènes en ville que dans les campagnes. Et ça, c'est vrai dans les villes françaises, mais c'est vrai dans toutes les villes européennes, puisqu'on a fait une grande étude européenne qui a démontré ces chiffres. Alors maintenant, il nous revient, et c'est un sujet de recherche très actif et très actuel, de comprendre ce qu'il y a derrière ce terme d'urbanicité. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est les difficultés économiques?
Est-ce que c'est la pollution?
Est-ce que c'est la pollution? Et donc ça, c'est un sujet aussi de recherche très important qui est mené par Stéphane Jamin au laboratoire, qui essaye de comprendre l'impact de la reproduction de différentes pollutions de l'air pour voir quelles sont les conséquences neurodéveloppementales. Et chez les patients, ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer le fait d'être né dans une région ou dans un endroit dont on sait qu'il y avait une pollution importante, si ça a eu une conséquence sur le déclenchement, la sévérité des pathologies mentales.
On voit effectivement à quel point c'est important. Donc des moyens pour la recherche, des moyens pour le soin et une prise de conscience au-delà des décideurs, de toute la population, avec peut-être aussi le fait que certains reconnaissent que ces maladies existent, qu'ils en parlent, comme ça a pu être le cas pour d'autres maladies.
Absolument, je crois que chaque fois que des grands témoins, des personnalités, des stars, des personnalités publiques prennent la parole dans un domaine médical, qu'il s'agisse du cancer, qu'il s'agisse du sida, qu'il s'agisse des maladies d'Alzheimer, et ont porté ce débat sur la scène publique, le regard qu'on pouvait porter sur ces pathologies a changé et les moyens, par exemple pour la recherche, mais aussi pour la rénovation et la réorganisation du soin, sont venus. Donc c'est vrai que je pense que...
Vous dites dans votre livre, on a besoin de coming out.
On a besoin
carrément
de coming out.
Vous utilisez ce terme.
Absolument. Alors c'est un peu du franglais, mais c'est vrai que les Anglais ou les Anglo-Saxons sont un petit peu devant nous dans ce domaine, et si je peux faire un appel solennel ce soir, c'est vrai que ça serait tellement important pour la reconnaissance de ces pathologies, pour l'ouverture que ça donnerait, la possibilité d'en parler, que des personnalités qui ont eu une dépression, qui ont eu quelqu'un dans leur famille qui a une schizophrénie ou une autre pathologie, puissent en parler, puissent oser en parler. Je pense que c'est tellement important.
En parler et puis prendre bien conscience qu'il y a des moyens de se soigner. Dans ce livre, il y a toute une partie qui s'appelle « Bâtir une société plus résiliente ». C'est très intéressant tout ce que vous expliquez, tout ce que la psychothérapie est capable de faire, toutes les méthodes qui existent. Vous dites aussi « Apprendre la résilience dès la maternelle ». Ça, c'est du travail de fond qui touche effectivement tout le monde.
Absolument. Je pense qu'il faut apprendre très tôt aux enfants toute une série de ressources qui sont disponibles aujourd'hui quand on va bien, sans attendre d'être malade, et on devrait apprendre aux enfants très tôt toute une série de techniques qui sont effectivement décrites dans ce livre et qui permettraient que face à une crise comme celle qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu dans ces dernières semaines, on soit beaucoup plus résilient et beaucoup plus capable d'y faire face.
Voilà, réinventer notre santé mentale avec la Covid-19, c'est chez Odile Jacob. Un très grand merci professeur Marion Le Boyer d'être venu ce soir pour parler de tous ces sujets qu'on n'a pas fini d'épuiser. Merci à vous.